parler politique, c'était très tôt, mais à partir, je pense, de 14-15 ans, tu t'enclenches dans le truc, et c'est là où t'as les réseaux sociaux, où tu commences à avoir des liens justement plus proches avec la politique.
Bah moi, ouais, j'ai plusieurs idées, mais sinon, oui, bah, moi j'ai quand même un parti, bah, aujourd'hui j'ai un peu l'âge, je suis assez mature, et avec les réseaux sociaux et tout ça, bah on voit, enfin on est un peu influencé quoi. Bah au lycée, enfin on n'en parle pas du tout.
Bah il y a la droite et la gauche, ça j'ai compris. Pour élire un président ici. Après, je sais pas trop. Enfin, c'est pour tout en fait, pour toutes les règles, les lois.
Moi je sais que c'est à la télé où en général tu le vois, ou même les discours ou quoi. Mais à l'école, il n'y a pas eu tant de sensibilisation ou de parler autour de ça.
Moi c'est plutôt mes parents qui m'en ont parlé, parce que mon père est intéressé par la politique. Donc j'ai un peu appris de lui.
Dans le sens général, la politique, bah, c'est là où on discute les lois, c'est là où on discute les valeurs, les normes. C'est ce qui fait notre société, quoi, la politique.
Bah, la politique, c'est une personne qui dirige, mais il a d'autres personnes avec lui pour qu'ils soient d'accord et pour que ça soit pas comme à l'époque du roi et que ça soit pas en hiérarchie et que ça soit démocratique. Et qu'aussi qu'on a besoin d'une personne et d'autres personnes pour qu'ils agissent parce qu'il y a des gens qui feraient rien.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous avez entendu ce joli lapsus. Nous ne vivons pas en hiérarchie puisque nous pouvons élire un président ou une présidente. Cet enfant parle évidemment de monarchie, mais la tournure est belle. Dans cette émission, je vous propose que nous fassions une hiérarchie pour le coup. Quels sont les enjeux démocratiques dont il faut parler en priorité à nos enfants ? Pas évident, en tant que père ou mère, de jouer un rôle dans l'éveil des consciences politiques. Voilà notre sujet aujourd'hui dans Barbatruc. À 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle, demandons-nous si la politique doit prendre une place dans la relation parent-enfant et laquelle. Tenez, est-ce une bonne idée de révéler à notre progéniture pour qui on va voter ? Les enfants ont-ils une opinion politique ? Et si oui, à quel âge et comment se fabrique-t-elle ? Quelle est la part de transmission familiale ? Évidemment, et encore heureux, les parents ne sont pas la seule influence dans la construction du système de valeurs d'un futur électeur ou d'une future électrice, que dis-je, dans sa hiérarchie de valeurs. C'est parti de la politique à hauteur d'enfant.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
France Inter.
Une émission en partenariat avec Bayard Jeunesse, préparée par Margot Page, réalisée par Christophe Imbert avec Guillaume Roux à la technique. J'accueille 3 invités. 2 sont avec moi en studio et 1 en duplex de Rennes. Honneur à la Bretagne, tenez. Bonjour Nicolas Rousseau.
Bonjour.
Dans le studio de France Bleu Armorique, que je remercie au passage, vous êtes journaliste spécialisé dans la presse jeunesse. Vous intervenez régulièrement dans des classes, dans le cadre d'ateliers médias. Et vous avez écrit un livre pour les enfants entre 10 et 13 ans, intitulé « À voter, on élit qui et pourquoi ?» chez Flammarion Jeunesse. Une nouvelle édition va sortir dans 1 mois. On trouve dans ce bouquin toutes les clés pour comprendre le fonctionnement de la démocratie. Est-ce que vous confirmez, Nicolas Rousseau, qu'on ne vit pas dans une hiérarchie en France ?
Non, on ne vit pas dans une hiérarchie, mais c'est intéressant de voir que certains mots nécessitent d'être définis pour bien comprendre de quoi l'on parle.
La hiérarchie, la monarchie, le lapsus est intéressant, non ?
C'est finalement un système de valeurs intéressant, oui. Le roi étant au-dessus de tout, désigné par Dieu, dans la monarchie française, on peut considérer que hiérarchiquement, il est au-dessus de tout, à la différence du président de la République qu'on va bientôt élire.
L'ambition est la même, expliquer la vie publique aux ados, mais avec du son. C'est un podcast France Inter, il est tout neuf et il s'appelle « Président, c'est comment ?». Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Journaliste au service politique de France Inter. Vous avez concocté ce podcast avec Yaël Gauz. Il vient tout juste de sortir, à écouter sur l'application France Inter ou sur notre site ou sur toutes les plateformes de podcast. Vous recommandez à partir de quel âge, « Président, c'est comment ?»
À partir de 8-9 ans, parce que ça, on a fait en sorte que ce soit très didactique et facile à écouter, on a un petit lapsus, nous aussi. Alors, je sais pas si, finalement, il était gardé au montage, mais on leur demandait comment on fait pour voter. Eh ben, on vote dans un urinoir.
Ah, bah oui, bien sûr. C'est très intime, hein.
C'est très intime.
Excellent support que ce podcast, pour entamer une discussion entre parents et enfants sur cette campagne présidentielle. Vous avez tendu votre micro, Laurence Perron, à des ados pour le podcast. Quelle est votre impression générale sur le lien entre eux et la politique?
Bah, j'étais assez surprise. C'est-à-dire qu'au départ, je pensais que vraiment, en partant de cette contrainte qui nous avait été donnée par la direction de France Inter, c'est de parler plutôt à des enfants, à des préados entre 9 et 13 ans, je tomberais sur des enfants pas du tout intéressés par la chose politique et pas du tout conscients. Et en réalité, je me suis rendu compte non seulement qu'ils avaient une petite culture politique, mais en tout cas un vrai appétit de la chose publique.
Une curiosité.
Et une vraie curiosité. Et que cette campagne présidentielle que nous on dit atone, que sais-je encore, en réalité, je dis pas qu'elle les passionne, mais en tout cas, elle les émeut, elle les remue à des endroits particuliers.
Ma troisième invitée est docteur en sciences politiques. Bonjour Alice Simon.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous avez écrit une thèse qui est exactement dans notre sujet, Les enfants et la politique, contribution à l'étude des rapports ordinaires à la politique, c'est le titre. Dans le cadre de cette thèse, vous avez mené des entretiens avec des enfants dans des écoles, vous nous raconterez ça tout à l'heure. Un mot sur le contexte, d'abord Alice Simon, cette période que nous traversons, campagne présidentielle, est-ce que c'est le moment par excellence où la politique prend le plus de place dans la vie des enfants et des ados?
Alors c'est en règle générale le moment où la politique prend plus de place dans la société, pour les enfants et les ados également, et peut-être même encore plus, dans le sens où c'est le moment où ils en entendent parler, alors que ordinairement, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, ils en entendent pas parler, et du coup ils en parlent pas dans la cour de récréation, alors que aux périodes présidentielles, c'est un sujet qui peut arriver dans la cour, qui peut arriver entre élèves, et qui peut faire que ça peut être les parents qui parlent de politique à leur enfant, ou parfois ça peut être aussi l'inverse. Les enfants qui posent des questions, et particulièrement à cette période-là.
On va entendre au fil de cette émission des paroles d'enfants recueillies par notre reporter Juliette Proutot, et ça confirmera, Laurence Perron, leur soif de politique, leur curiosité en tout cas sur ce sujet. On est ensemble jusqu'à 16h. Voici Alexia Grédy sur Inter, c'est Barbatruc.
Dis-toi, tu ne ressembles à personne, mais tu me fais drôlement penser aux oiseaux, aux oiseaux. Dis-moi, je n'en ai plus la moindre idée. Comment nous sommes-nous retrouvés à cette terrasse de café? Quel drôle de jour, quelle drôle d'idée de m'amener chez toi danser quand ton cœur s'est accéléré. J'ai tout fait pour te résister, pour te résister, pour te résister, pour te résister. Dis-toi, nous c'est un grand geste croisé. Je suis bien trop sentimentale pour ce grand frisson plein été. Je suis bien trop sentimentale pour avoir déjà oublié.
Peu politique mes parents ou quoi, donc il y a pas, on parle pas forcément de ça, il y a pas de débat là-dessus.
Pas vraiment non plus, parce qu'ils sont plutôt d'accord généralement.
Toi, il y a eu du débat un peu.
Moi beaucoup, parce que surtout entre mes parents, parce que déjà mes parents sont séparés et ils ont pas du tout la même vision politique. Et mon père est plutôt de la droite et ma mère de la gauche, donc forcément ça crée des embrouilles.
Entre mon père et ma mère qui sont pas des mêmes partis politiques, et entre la famille de mon père et la famille de ma mère qui sont pas des mêmes partis politiques, donc oui, ça faisait beaucoup d'histoires.
Des propos recueillis dans les rues de Nantes par Juliette Proutot, la chose publique et les enfants. Nous parlons politique dans Barbatruc cette semaine, à 2 mois du premier tour de la présidentielle, avec Alice Simon, docteur en sciences politiques, avec Laurence Perron, dont le podcast pour les enfants vient de sortir, Président, c'est comment, et avec Nicolas Rousseau, auteur d'un livre intitulé À voter. Alors voilà, la question est importante, Nicolas Rousseau. Évidemment que chaque parent fait bien comme il le souhaite, mais ce qu'il faut dire à ses enfants pour qui on va voter, à votre avis?
Je pense que davantage que de dire pour qui, il faut d'abord dire pourquoi. En fait, on s'aperçoit dans les calendriers électoraux qu'il y a une multitude d'occasions pour un électeur d'aller dans un bureau de vote. Et pour les enfants, c'est peut-être pas très clair de savoir qui fait quoi à partir du moment où il est élu. Donc davantage de dire pour qui on va voter, pour quel candidat, il me semble important de dire pourquoi. Et puis ensuite, on entendait dans les premiers sons d'enfants tout à l'heure, parler de la droite et la gauche. Mmh. Et quand on est enfant, la droite et la gauche, c'est d'abord des mains. Et du coup...
des gauchers et des droitiers, vous voulez dire.
C'est ça, c'est d'abord ça. Et trouver en fait la traduction politique, c'est pas toujours très évident pour un parent qui doit l'expliquer à ses enfants et pour les enfants de le comprendre ensuite. Donc expliquer à l'enfant la politique, c'est peut-être se mettre à sa portée et comprendre comment en fait la politique gère sa vie dans tous les domaines de ses activités.
Se mettre à sa portée, donc répondre à ses questions plutôt que de lui répondre t'es trop petit pour comprendre, hein. C'est quand même la base, Nicolas Rousseau.
Je pense que il faut absolument dissiper tout malentendu, tout doute. On a tous le souvenir, je pense, enfant, d'avoir accompagné nos parents ou un de nos deux parents dans un bureau de vote. Et c'est vrai qu'il y a une certaine solennité dans ce moment. Et si on n'explique pas les choses juste après, en disant, bah voilà, telle et telle personne ont telle et telle fonction dans le bureau de vote, il peut, oui, effectivement, avoir une sorte de mystère. Et c'est pour les grands. Et je pense pas que cet argument-là, ça te regarde pas, c'est pour les grands, soit un argument recevable quand on a 8, 10 ou 12 ans.
Alors, c'est un sujet, Alice Simon, sur lequel la science politique s'est penchée, évidemment, révéler ou pas son vote à ses enfants. Et ça diffère, en réalité, en fonction des opinions politiques.
Effectivement, donc ce que montrent les résultats de ma thèse, c'est que les enfants qui connaissent le vote de leurs parents sont très très majoritairement des enfants dont les parents ont voté à gauche. Ce qui signifie que on dévoile beaucoup plus son vote à gauche qu'à droite, ce qui n'est pas particulièrement surprenant en réalité, parce qu'on sait que les familles de gauche parlent plus de politique en famille, donc y compris vis-à-vis des enfants, et que par ailleurs le vote est plus secret à droite qu'à gauche.
Sondage qui date de 2017 du journal Le Parisien aujourd'hui en France, moins d'un enfant sur trois pensait savoir pour qui ses parents allaient voter.
Effectivement, les parents ont tendance à cacher le vote aux enfants, tout simplement parce que les enfants ne savent pas toujours très bien tenir leur langue.
Voilà, ils vont le répéter à leurs copains et donc aux parents d'élèves. Ça, c'est un désastre.
Aux parents d'élèves, aux enseignants, etc. Donc c'est sûrement la raison qui explique parfois qu'on hésite à dire son vote à son enfant. Après, pour les enfants, ça aide quand même pour se repérer sur l'échiquier politique. Le fait de pouvoir associer les valeurs de leurs parents, que forcément ils connaissent du fait de leur quotidien et des discussions qu'ils peuvent avoir, à une personnalité politique, c'est quand même quelque chose qui aide à se repérer. Et donc qui est plutôt positif pour la capacité de l'enfant à comprendre le monde politique.
Est-ce que vous avez hâte de voter ?
Oui.
Oui. Oui. Oui. Je trouve que c'est important de donner son avis.
Ça sert à choisir le président.
Bah, ça sert aussi à gouverner la France, parce que s'il est pas bien, bah, ça va mal aller et tout ça. Et en même temps, ça donne un peu de notre avis. Et donc, c'est bien de donner notre avis aussi et qu'on est libre de le faire.
Je pense que si personne voterait, on serait un peu mal, quoi.
Et pourquoi est-ce que vous avez envie de voter, vous ?
Pour élire le président.
Pour donner notre avis aussi.
Et puis, si on ne vote pas pour un président, ça pourrait être un président pas bien, qui pourrait faire de très mauvaises choses pour la France.
Est-ce que vous avez hâte de voter ?
Pas plus que ça.
Bah, je m'y intéresse, mais je sais pas trop encore quoi. Enfin, faudrait beaucoup, faudrait lire tous les programmes, en fait, pour c'est beaucoup de travail, et puis, enfin... C'est un peu une responsabilité. Et puis, je sais pas trop si ça sert à grand chose. Enfin, si tu veux voter par exemple de gauche ou quoi, j'ai pas l'impression que. Non, en ce moment.
Il y a de moins en moins de gens qui votent, hein, d'ailleurs. Ou des votes blancs, des trucs comme ça.
J'aurais aimé voter, mais pour autant, j'aurais pas su qui. Parce que actuellement, aucun me fait rêver, quoi, c'est tout.
Est-ce que vous avez hâte de voter ?
Non.
Non, pas du tout.
Parce que c'est dur comme choix, un peu quand même. Parce que après. Même si tu veux faire un choix et que tu sais que t'es pas dans la majorité, c'est compliqué de savoir pour qui voter, tout ça. Mm-hmm. Et puis on sait pas tout des fois des personnes sur qui voter, et du coup voilà.
Alors c'est un micro-trottoir, ça n'a pas valeur évidemment d'échantillon, Laurence Perron, mais je retiens une impatience chez certains de ces enfants, et aussi une impression d'incompétence. C'est dur de choisir, disent-ils. Vous avez retrouvé à peu près ces deux tendances générales en tendant votre micro à des enfants et à des ados ?
Oui, alors en même temps, ce que je retrouve par rapport à ce micro-trottoir-là, c'est l'idée que c'est quelque chose d'important. Mmh. C'est-à-dire, c'est un acte solennel, c'est quelque chose qui demande qu'on réfléchisse beaucoup. Et ce qui m'a frappé aussi, et c'était pareil avec les enfants que j'ai interviewés, c'est que c'est un président, quoi. C'est pas une présidente. Ah. Ah non, mais c'est alors nous on est allé un peu plus loin parce qu'on leur a posé la question de savoir si il était possible d'avoir un président, une présidente, quelqu'un qui serait éventuellement non binaire, homosexuel, même noir, arabe ou chinois. Alors ça, enfin d'origine, hein, bien sûr. Et en fait, il y a un très très grand conservatisme de leur part. C'est dans l'idée, c'est pas possible du tout. Il y a des candidates, hein, ils les ont bien identifiées, mais une femme présidente, pour eux, la France n'est pas mûre. Alors noir, arabe, d'origine chinoise, pas possible. Quant à homosexuel, alors là, voilà. En tout cas, c'était compliqué de devenir président de la République. Il y avait plein de choses à passer. Et qu'en tout cas, c'est pas le lieu où on est le plus créatif.
Alice Simon, êtes-vous surprise par cette impression d'incompétence autoproclamée des enfants sur le sujet de la politique? On parle beaucoup ces temps-ci d'un éventuel rabaissement du droit de vote à 16 ans. Ça peut sembler surprenant.
Effectivement, il y a un sentiment d'illégitimité politique chez les enfants qui s'explique par leur statut, en fait, leur statut d'enfant, qui est un statut qui va avec le fait de pas être responsable pénalement, le fait de pas avoir le droit de faire tout un tas de choses de manière autonome, et le fait d'être incompétent sur tout un tas de sujets, que ce soit la politique ou plein d'autres sujets qui sont réservés aux adultes. Donc ça génère effectivement chez les enfants un sentiment d'illégitimité qui, cependant, n'est pas le même pour tous les enfants. Le sentiment d'illégitimité politique est d'autant plus fort pour les enfants qui ont peu de connaissances politiques déjà, mais aussi plus fort pour les filles que pour les garçons. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les adultes, et c'est intéressant de voir que ça commence dès l'enfance. Et pour les parents, c'est peut-être intéressant de le savoir et d'essayer de compenser dès l'enfance le fait que les petites filles se sentent moins légitimes politiquement, moins légitimes pour donner leur opinion.
Ça, vous l'avez constaté dans vos enquêtes, hein?
Oui, absolument, sur des questions sur justement, est-ce qu'ils se sentent en capacité de voter, est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir des connaissances politiques, etc. À niveau de connaissances égales, les filles ont l'impression d'être moins fortes que les garçons.
Donc, ce qui me frappe, Alice Simon, dans votre travail de recherche, c'est que vous prenez au sérieux, finalement, les opinions politiques des enfants. L'idée même que les enfants aient une opinion politique peut sembler, pour certains, un peu absurde. Vous les traitez comme les adultes, si j'ose dire?
Oui, on peut tout à fait les traiter comme les adultes, puisque certains enfants ont des opinions politiques très construites, avec des arguments, etc. D'autres ont des opinions politiques plus fugaces, enfin avec qu'ils auront plus de difficultés à justifier. Mais certains adultes, c'est pareil, en fait. Donc, du coup, il n'y a pas particulièrement de différence, à part le fait que les enfants, souvent, ont moins d'informations à leur disposition, et que donc, leurs opinions ont tendance à être moins consolidées. Elles vont d'ailleurs plus facilement pouvoir changer avec le temps, puisqu'elles reposent sur moins d'arguments, moins d'opinions. Il peut y avoir des opinions, enfin, il y a certains enfants qui sont absolument persuadés qu'ils détestent, par exemple, Marine Le Pen, mais ça peut être quelqu'un d'autre, et ils vont avoir un cri de dégoût quand ils voient son image, etc., et pour autant, ils seront pas expliquer pourquoi. Mais ça veut pas dire que c'est pas une opinion forte, puisqu'elle est même émotionnellement en chargée, cette opinion.
Parce que c'est ainsi que vous avez procédé, hein. Vous avez montré des images de candidats et de candidates à des enfants dans des écoles, c'est ça?
Alors voilà, il y avait des entretiens où je montrais des images, il y avait des petites questions, la gauche, la droite, qu'est-ce que c'est, le racisme, etc. Et un questionnaire également.
66% des Français s'inscrivent dans la continuité des choix politiques de leurs parents, c'est quelque chose qu'on sait peu, hein. La plupart des gens votent comme leurs parents. Même à l'âge adulte, hein, j'entends.
Oui, il y a une reproduction très forte des opinions politiques, encore plus chez les plus jeunes, puisque effectivement, lorsqu'on est enfant, la source d'influence principale, pas unique mais principale, ce sont les parents. Donc plus on grandit, plus on prend de l'âge, et plus il y a des chances qu'il y ait un conjoint, des amis, d'autres sources. Les enfants, ils ont une source presque unique, qui est la source familiale. Donc effectivement, une reproduction très forte, qui est logique. Et qui ne veut pas dire que pour autant les enfants vont forcément tout faire comme vous.
Il faut l'avoir en tête quand on leur en parle, Nicolas Rousseau, c'est le problème de naviguer entre la crainte de les conditionner ou de manipuler les enfants et l'envie évidente de leur transmettre des valeurs.
Oui, enfin, ce qui est intéressant dans les détracteurs du vote à partir de 16 ans, c'est de dire que l'influence familiale va forcément conduire l'enfant à voter comme ses parents.
On disait pareil pour les femmes avant qu'elles aient le droit de vote, hein.
Exactement, par rapport à leur mari, du coup. Et en fait, on s'est aperçu, notamment en Autriche, qui a dû autoriser le droit de vote dès 16 ans à partir de 2007, qui a non seulement eu un regain d'intérêt pour la vie politique chez les jeunes, donc un besoin d'information à partir du moment où ils étaient détenteurs d'un droit de vote, et puis un plus fort engagement aussi en termes de participation aux élections, parce que il y a une autre conséquence du désintérêt relatif des jeunes à la politique, c'est l'abstention des primo-votants. Et selon plusieurs instituts de sondage, on s'attend à ce que les 18-25 ans soient parmi les catégories d'âge les plus abstentionnistes lors des prochains scrutins présidentiels et puis ensuite législatifs. Peu sans doute savent que juste après, on va à nouveau voter en France pour élire des députés.
Vous diriez-vous que c'est la responsabilité des parents que d'expliquer les institutions aux enfants? Ça peut mettre un peu la pression hein, à ceux et celles qui nous écoutent, Nicolas Rousseau.
Enfin, les institutions, on peut les expliquer assez simplement.
Avec votre livre, par exemple.
Par exemple, mais si on prend déjà le principe de séparation des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, on va pouvoir comprendre en fait quelles sont les grandes familles institutionnelles en France. Et puis à partir de là, en fonction de l'âge de l'enfant, on pourra aller de plus en plus précisément dans les attributions et les fonctions de chacun. Mais c'est vrai que le contexte de l'élection présidentielle est un bon moment, je trouve, pour parler des institutions, qui fait quoi et quand, et dire que par exemple, on n'élit pas le Premier ministre, on n'élit pas non plus les ministres, on élit seulement lors de l'élection présidentielle, le président de la République ou la présidente de la République, et que pour les députés, c'est autre chose puisqu'ils auront une autre fonction, celle de posséder le pouvoir législatif. Voilà.
Allez, on poursuit ces échanges dans un instant. J'ai un conseil de lecture à souffler aux parents qui nous écoutent. Rien à voir avec la politique. C'est un bouquin pour les enfants à partir de 5 ans à peu près. Le Wawaseau de Joël Guénoun chez Actes Sud Junior. Pas évident d'en parler à la radio parce qu'il repose sur un dispositif très visuel. C'est un bestiaire. L'animal en couverture, à première vue, je le montre à mes invités en studio, c'est un chien. Mais si on regarde un peu mieux, il y a une oie dessinée dans son visage. C'est donc un oiseau, comme son nom l'indique. J'aime beaucoup aussi le pianours. C'est une silhouette de piano à queue mélangée à la silhouette d'un ours. Les pianours aiment être joués. Ils aiment qu'on leur gratte le dos. Dos s'écrit D-O, bien sûr. Le pianours se régale avec la truite de Schubert. Les illustrations de ce bouquin sont d'une immense douceur, accompagnées de textes très drôles. On y trouve plein d'autres mots-valises. Jouer avec la langue, c'est la meilleure façon d'apprendre à aimer la langue. Coup de cœur personnel pour le hamstruche. Il faut regarder bien l'image pour déceler un hamster et une autruche dans le même visuel. La cage du hamstruche est généralement équipée d'une roue dans laquelle il adore courir la nuit à plus de 90 km/h, ce qui peut parfois être un peu bruyant. Un livre très drôle, bourré de poésie. Le Wawaseau de Joël Guénoun, publié chez Actes Sud Junior.
Avec Dorothée Barba.
Who pulled the curtains? Who pulled the curtains?
C'était Alex Cameron sur France Inter. Sarah Jo, la programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. Et si on apprenait à mieux parler politique avec nos enfants? Un barbatruc en campagne pour la présidentielle cette semaine avec trois invités. Nicolas Rousseau, auteur d'un livre qui explique les institutions aux enfants, à voter chez Flammarion Jeunesse. Avec Laurence Perron qui co-signe un podcast France Inter, Président c'est comment? Et avec la docteure en sciences politiques Alice Simon. On va écouter Laurence Perron un extrait de ce podcast construit comme un échange entre vous et votre chef, le journaliste politique Yaël Gauz.
Salut Yaël, si t'avais le temps de me rappeler dans la journée, j'ai des questions à te poser, je suis avec des ados qui voudraient en savoir un petit peu plus sur la présidentielle. Ciao.
Moi je la rappelle. Salut, c'est Yaël, je suis à la radio, qu'est-ce que vous vouliez savoir?
La campagne c'est comment?
Est-ce que, par exemple Fatoumata, si toi tu veux devenir présidente de la République, tu peux le devenir?
Bah oui.
Moi je pense que oui.
Elle a été déléguée quand même.
Et est-ce qu'il y a des études pour devenir président à votre avis?
Oui, un minimum peut-être. Peut-être il faut avoir au moins le bac, je pense. Au moins le bac.
Avec mention bien, assez bien ou bien.
Après, il y a peut-être des gens qui n'ont pas fait des études et qui sont présidents, ça c'est peut-être possible aussi, je sais pas. Hein, mais dans des pays, peut-être il y a des présidents qui n'ont pas fait d'études, hein, je sais pas.
Mais en fait, c'est vrai, qui peut se présenter à l'élection présidentielle? J'aurais envie de vous répondre, à peu près tout le monde. Ce qui compte, c'est la motivation, l'envie de représenter les autres et de se battre pour eux, bah comme un délégué de classe par exemple. Mais pour que ce ne soit pas n'importe quoi, pour limiter le nombre de candidatures, la loi fixe certaines conditions.
Alors non, il n'est pas obligatoire d'avoir eu le bac avec mention pour être candidat ou candidate à la présidentielle, Laurence Perron. C'est vraiment l'ambition de ce podcast, hein, d'expliquer simplement les règles du jeu démocratique, qui peut se présenter, qui peut voter, comment les candidats choisissent leur slogan de campagne, aussi épisode passionnant. Il y a 7 épisodes au total, ils font tous autour de 8 minutes. Est-ce que vous demandez aux enfants pour qui votent leurs parents?
Alors jamais.
Surtout pas.
C'était, mais non, parce qu'en réalité, on se rend compte que pour le coup, c'est ce qu'on parlait de cette espèce de pudeur à parler de politique, même dans la manière dont j'ai abordé les enfants. Donc je me suis absolument interdite de leur poser la question, voire même on a enlevé quand les enfants avaient eux-mêmes des opinions politiques pour ne pas que ça choque les auditeurs de France Inter, enfin des opinions politiques. Bah oui, en fait, en réalité, il y a des candidats qui sont assez tonitruants et assez clivants dans cette campagne. L'idée, c'était vraiment de rester sur une idée très très pédagogique, de leur expliquer comment ça marche avec leur propre interrogation, mais en aucun cas de faire de la politique au sens politique.
Voilà, finalement, votre sujet, c'est plus les institutions démocratiques que cette campagne présidentielle.
Exactement.
Mmh. Et vous abordez dans l'un des épisodes la question du droit de vote à 16 ans, justement. Est-ce qu'il faut baisser l'âge auquel on a le droit de se rendre aux urnes? Quel est l'avis des ados que vous avez rencontrés, globalement?
Je les ai trouvés plutôt très réticents. Mmh. C'est-à-dire qu'avec ce que vous disiez, là, ce sentiment d'incompétence et l'idée que c'est sans doute trop jeune, qu'ils ne connaissent pas encore assez bien, qu'en gros, il faudrait avoir un petit master en politique avant de pouvoir décider, alors qu'en réalité, ils passent de 16, 17 ans à 18 ans, tout à coup, ils ont le droit de vote, et en réalité, ils n'ont pas beaucoup plus de connaissances politiques que cela, même si je trouve quand même qu'ils avaient quand même une certaine... Je me demande si l'EMC à l'école ne les a pas aidés à avoir une certaine conscience de ce qu'est la chose publique.
Éducation
morale et civique, qui est un truc assez nouveau, mais j'ai l'impression que, parce que moi j'ai jamais eu ça à l'école, que ça les forme un peu, même si certains parents m'ont dit « Oh ben non, en fait on n'apprend rien, ça doit dépendre des écoles et des enseignants aussi. »
Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la politique ça intéresse plus les enfants?
Bah, qu'on en parle un peu plus à l'école.
Oui, vous aimeriez bien qu'on en parle à l'école un peu plus?
Oui. Non, on n'en entend jamais parler en fait.
Mais on en a parlé un tout petit peu. Ils ont juste expliqué qu'on n'a pas le droit de voter avant 18 ans.
Non, on a déjà fait un débat dans la classe. On s'est tous crié dessus.
Peut-être que les adultes ont l'impression que comme on est encore trop jeune pour voter, c'est pas important. Mais nous, on entend parler des élections présidentielles. Ben, des fois, on a envie d'en savoir un peu plus.
Aussi de comprendre ce que c'est, parce qu'on n'en parle jamais. La seule chose pour moi que j'ai compris, c'était dans un livre que je suis abonnée, et puis voilà, c'est tout.
Entre copains, est-ce que vous en parlez un peu de tout ça?
Oui, un peu.
Ça m'intéresse pas trop.
Mais c'est plutôt sur les délégués de classe.
Mais moi, j'en entends surtout parler avec les parents.
Moi, c'est à la télé, et en allant à l'école, il y avait plein d'affiches avec plein de présidents, avec marqué « Votez pour moi! Votez pour moi !»
Nous, c'était à la télé aussi, et tout ça, aux 20h, ouais, aux 20h, qui disaient pour convaincre ceux qui devaient pour être président.
Parce que sur les réseaux sociaux, on ne sait pas faire le tri. Il peut y avoir des fake news, des choses, des informations fausses, on ne sait pas réellement faire le tri. Et on peut nous balancer des infos comme ça, où on ne sait réellement pas ce que ça veut dire. Justement, nous, on fait les réunions, en fait, on a un groupe de 4.
un groupe de 4 meilleurs amis, on s'est fait des réunions vis-à-vis de ça, justement cette question de se dire est-ce que le lycée nous sensibilise vis-à-vis des questions politiques. On a trouvé que justement pas du tout, et on s'est dit justement qu'il faudrait que les délégués aillent voir le proviseur, les secrétariats, et qu'ils proposent des heures sur le temps de EMC, l'éducation morale et civique, où on parlerait justement de politique et on expliquerait, parce que nous on aimerait qu'on explique réellement ce que ça veut dire la politique et ce qu'on nous présente, les, parce que à chaque fois on dit le parti de gauche, le parti de droite, on nous dit voilà le parti de gauche les valeurs c'est la liberté, l'égalité, etc., le parti de droite c'est plus le nationalisme, bon ok, mais on nous explique pas réellement c'est quoi leur programme, ce qu'ils proposent, les lois, enfin tout ça, on nous explique pas vraiment concrètement les vraies idées de ce parti, et du coup on peut jamais se faire vraiment une idée. Et moi je pense qu'on devrait avoir des cours de politique, pas des cours de politique mais de on explique, pas en donnant leur avis mais en expliquant clairement ce que c'est. Il y a plein de choses qu'on sait dans la politique qu'on ne sait même pas, on sait même pas ce que c'est.
En vrai, s'il y avait quelqu'un qui venait nous en parler une fois de temps en temps, ce serait bien.
Est-ce que Jean-Toi, tes copains, ils s'intéressent un peu à la politique,
tes copains? Non, pas vraiment. Nous laisse les grands gérer ça.
Et t'as l'impression qu'ils gèrent bien?
Non. Ça dépend.
Laissons les grands gérer. Des propos recueillis dans les rues de Nantes par Juliette Proutot. Alors, il faut parler plus et mieux de politique à l'école. La demande est très claire, Nicolas Rousseau. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je trouve que rendre les élections concrètes par celles des délégués de classe, c'est déjà un très très bon exercice de démocratie. On peut en fait reconstituer dans une classe, et c'est souvent le cas, le cadre même d'un bureau de vote. Et ça permet en fait aux enfants, aux écoliers, aux collégiens, aux lycéens, de comprendre en fait que chaque voix compte, et la leur aussi. Ils ont parfois, j'ai l'impression, tendance à dire « Oh, c'est pas ma voix, c'est pas mon vote qui va changer quelque chose ». Sauf que si on prend un quorum de 30 élèves, une seule voix peut faire élire ou pas un délégué. Donc l'exercice de la démocratie par l'élection des délégués de classe me paraît très importante. Par ailleurs, organiser un débat politique dans une classe, je suis pas sûr que le cadre s'y prête, parce que effectivement un des enfants interrogés parlait d'une foire d'empoigne à l'issue de l'heure de débat. Par contre, oui, effectivement, les cours de EMC permettent de positionner les connaissances et la culture politique. Enfin, il y a le politique et la politique, et je trouve qu'on incarne trop finalement le débat par des candidats clivants que par finalement les fonctions qu'ils vont ou pas occuper.
Mais alors ce que je retiens de ce que viennent de dire ces enfants, c'est qu'il y a une forme de pudeur à l'école. On n'enseigne pas les grands clivages, les grands courants de pensée politique à l'école. Est-ce que vous pensez qu'on devrait le faire plus ?
Je pense qu'on le fait déjà, mais pas forcément dans les attentes des enfants. En fait, je pense que la campagne, déjà si on interroge le mot, quand on est en CM1, CM2, la campagne, ça s'oppose à la ville. Donc la campagne électorale, c'est déjà deux mots qui sont en collision pour un enfant, à mon avis.
Et la primaire, c'est une école ?
L'école primaire.
Oui, la primaire, oui, ça peut être une école aussi. En fait, tous les mots sont polysémiques et tous peuvent avoir finalement une signification politique. Néanmoins, pour revenir sur la question de parler politique aux enfants à l'école, au collège et au lycée, à mon avis, c'est les armées aussi, par une lecture suivie de l'actualité et la mise aussi en perspective de ce que les réseaux sociaux peuvent leur faire lire ou découvrir par simple clic. En fait, tous n'ont pas, malgré un accès à Internet quotidien et quasiment instantané à toute l'actualité, tous n'ont pas les clés pour décrypter de l'actualité qu'on leur propose via des réseaux sociaux.
Alice Simon, sur cette question de la politique perçue à l'école, il y a une impression quand même de tabou. C'est évidemment la règle de neutralité qui s'applique à l'éducation nationale. Je serais curieuse de savoir comment ont été reçus vos travaux de recherche. Quand vous êtes venu dans les écoles pour interroger des enfants sur leurs opinions politiques, comment avez-vous été accueilli par les enseignants et les enseignantes ?
Alors par les enseignants, bien, dans le sens où de toute façon ils n'étaient pas obligés de m'accueillir. Donc voilà, il y en a plein pour qui ça ne pose aucun problème et qui, au contraire, regrettent, je pense, de ne pas pouvoir aller un peu plus sur le sujet politique avec les enfants. Enfin, les enseignants sont souvent un peu mal à l'aise vis-à-vis de ces questions-là parce qu'ils ont à la fois une injonction à préparer les enfants, enfin
à les éveiller politiquement.
Voilà, à les éveiller politiquement et en même temps, tout en devant respecter une neutralité qui, prise au sens strict, signifierait qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot droit, d'utiliser le mot gauche, de dire qui est le Premier ministre, etc. Alors que bon, voilà, on pourrait en faire une interprétation un peu différente. Tout simplement, la neutralité, c'est de ne pas dire sa propre opinion, ce qui n'empêcherait pas, en fait, de parler très frontalement, effectivement, d'idées politiques, de débats, de propositions, de campagnes. Mais bon, voilà, beaucoup ne se sentent pas forcément à l'aise pour le faire.
Donc bien accueillis par les profs et par l'institution, un peu moins. Vous avez senti une hostilité de la part de l'école en général ?
Disons que la thèse que j'ai faite, je pense pas que je pourrais la refaire aujourd'hui. Ah. J'ai eu l'autorisation d'aller dans les écoles publiques en 2013. Dans une académie spécifique, et les choses se sont un peu tendues depuis, notamment depuis les attentats de Charlie Hebdo. Il y a eu vraiment une crispation sur l'école. Enfin, il y a eu aussi toute la période avec l'ABCD de l'égalité. Enfin, voilà, il y a eu vraiment une attention de l'opinion publique très forte sur l'école et le rôle politique qu'elle pouvait avoir, qui fait que je pense qu'aujourd'hui aucune académie ne donnerait l'autorisation d'aller à l'école et de demander aux enfants pour qui leurs parents ont voté, par exemple.
Voilà. Ça raconte une époque, hein.
Ça a pas été particulièrement mal reçu sur le terrain, mais c'est considéré comme étant à risque ou comme étant tabou. Alors qu'en réalité, si on prend ça d'un point de vue scientifique, il y avait pas de problème particulier. Les enfants étaient volontaires pour participer, leurs parents avaient donné leur autorisation, les enseignants étaient d'accord, enfin voilà, il y avait pas de... Mais effectivement, il y a vraiment un tabou de l'opinion politique des enfants, et particulièrement à l'école.
On a déjà fait une émission, Barbatruc, sur la sexualité, l'éducation à la sexualité. Vous arrivez jusqu'à dire que c'est encore plus tabou, la politique, à l'école ?
On est à peu près du même ordre, je pense, oui.
Je repensais, en préparant cette émission, à des souvenirs de lycéennes, Nicolas Rousseau, et certains profs dont on comprenait tout à fait les opinions politiques sans qu'ils n'aient à les révéler. Est-ce que finalement, ce serait pas plus simple que les profs disent... avant de commencer un cours, voilà, quelles sont mes opinions. Dire d'où l'on parle, finalement.
Dire d'où l'on parle, c'est une position sociologique, et peut-être je laisserai Alice en parler, mais est-ce qu'il n'est pas intéressant de s'interroger sur quelles peuvent être les opinions politiques de tel ou tel adulte, de tel ou tel électeur, en fait, par son discours, les mots qu'il choisit.
Une forme d'enquête politique,
oui.
Oui,
en fait, ouais. On a tous, de toute façon, transparaît dans nos discours et nos positions, une opinion politique. Mais ça nécessite, et j'entendais une des adolescentes là qui témoignait dans le micro-trottoir, ça demande du travail d'éplucher des programmes de campagne. Mais effectivement, la culture politique, ça demande du travail, c'est pas inné, c'est pas parce qu'on est dans une famille plutôt de droite ou plutôt de gauche que sa conscience politique va pas s'éveiller et puis ensuite être la même ou différente. Donc effectivement, je trouve ça plus intéressant d'essayer de deviner comment votent les gens plutôt qu'ils nous le servent sur un plateau sans même qu'on ait à se questionner.
Donc c'est une forme de gymnastique intellectuelle de devoir deviner où se situe le prof politiquement.
Bah, je pense que pour notamment au lycée, c'est une des énigmes qu'est-ce qu'il vote et ce à quoi il croit. Ça peut être pour un professeur ou une professeure une des énigmes à résoudre pour ses élèves, effectivement.
Barbatruc de Dorothée Barba sur France Inter.
Politique et vie de famille à l'approche de la présidentielle dans Barbatruc cette semaine avec Laurence Perron, journaliste politique à France Inter, avec Nicolas Rousseau, auteur d'un livre pour enfants à voter chez Flammarion Jeunesse, et avec Alice Simon qui est docteur en sciences politiques. Je vous relance sur cette question des enseignants et enseignantes. D'où parlent-ils ? Devraient-ils, à votre avis, révéler à leurs élèves leurs opinions politiques ? Ou en tout cas, est-ce que c'est imaginable ?
Ça pourrait être imaginable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si un enseignant révélait son opinion politique, est-ce que ce serait vraiment un drame ? En fait, il y a vraiment une crispation là-dessus et sur laquelle il faut réfléchir. Enfin, quel est le fondement, finalement, de cette crispation-là ? Et pourquoi est-ce que les enseignants, sans pour autant essayer d'être dans un travail de conviction vis-à-vis des élèves, ont aussi peur de pouvoir, par inadvertance, révéler quelque chose de l'ordre de l'intime ?
Et
ça devrait pas être leur rôle, mais je veux dire, si ça arrive, c'est une relation humaine comme une autre, et les enfants vont pas se retrouver d'un coup. En fait, pour moi, ça rejoint le mythe de l'enfant sire-molle qui serait complètement influençable. Et dès que si jamais quelqu'un lui dit son opinion politique, d'un coup, bim, il va prendre la même opinion. Non, les enfants ont plusieurs sources d'influence. Les enfants
et pas
ont
seulement
leurs propres
les
opinions. Et voilà. Et du coup, c'est pas en leur disant une opinion comme ça qu'on va les bouleverser à vie. Et...
Votre thèse, Alice Simon, montre que les opinions politiques des enfants ne relèvent pas d'une simple répétition de celles de leurs parents, mais d'une réappropriation. Qu'est-ce que ça signifie ?
Alors, ça signifie effectivement qu'on n'est pas dans une simple répétition, mais qu'il y a une transformation des informations auxquelles les enfants sont exposés. Et donc, cette réappropriation, elle se fait à deux niveaux. Déjà, un niveau cognitif, de l'ordre de la compréhension. Les enfants vont être exposés à plein d'informations et ils vont sélectionner les informations qui font sens pour eux. Ils vont traduire certaines informations, leur donner du sens, en fait, avec ce que eux comprennent et avec des outils qui sont à leur disposition. Donc ça, c'est le premier premier niveau. Et le deuxième niveau où il y a réappropriation de l'information, c'est simplement que justement, les informations à leur disposition sont plurielles. Et donc, ils composent avec les différentes informations qu'ils ont. Et finalement, l'opinion qui en ressort, c'est leur propre opinion personnelle. Exactement comme pour les adultes.
C'est intéressant de voir le vocabulaire qui est employé. Vous l'évoquez dans votre thèse. On dit que les candidats sont gentils ou méchants, beaucoup, chez les enfants.
Voilà, le premier niveau, on va dire, d'opinion politique, c'est ça. C'est on n'aime pas, gentil, méchant. Et ensuite, vont pouvoir s'ajouter des arguments pour appuyer cette opinion. Donc ça peut être raciste, pas raciste. Mmh. Donc ça, c'est déjà une notion très accessible pour les enfants qui la connaissent déjà de par le quotidien scolaire ou par les valeurs familiales. Et donc c'est assez simple pour eux de l'appliquer ensuite sur le monde politique. Ça fait partie des valeurs assez, des choses assez simples, en fait, pour les enfants. Ensuite, il va y avoir des enfants pour qui ça va être la gauche, la droite. Donc ça, c'est déjà ceux qui ont un peu plus de connaissances politiques, ou pour certains, l'écologie, le partage. Enfin, voilà, il y a tout un tas de notions ensuite qui vont progressivement acquérir et qui vont finalement étayer l'opinion j'aime, j'aime pas, gentil, méchant.
On a déjà une opinion et on cherche ensuite à la confirmer, exactement comme les adultes.
Voilà, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut d'abord avoir le raisonnement et que l'opinion vient seulement dans un second temps, et en fait, en réalité, c'est plutôt l'inverse.
Laurence Perron, ça corrobore à peu près ce que vous avez rencontré lors de ces reportages.
Alors, comme moi, je leur ai assez fait peu parler de leur opinion politique, mais ils le disaient eux-mêmes. Effectivement, j'ai bien compris qu'il y avait des figures qui étaient des figures d'adhésion, des figures repoussoires. Et je me demande aussi si, et là je vous pose la question Alice Simon, si on peut se construire aussi contre ses parents. Est-ce que, par exemple, il peut y avoir, quand on est en conflit avec ses parents, du coup, un effet repoussoir, et on va choisir justement d'être complètement contre. Moi, je me souviens, voilà, j'ai une petite fille qui a aujourd'hui 9 ans, qui avait 5 ans au moment de l'élection de 2017, et elle connaît un peu mes opinions politiques, et donc...
Elle avait décidé que ce serait le contraire.
Ben exactement, elle avait décidé que ce serait le contraire, et quand elle était en colère contre moi, elle me disait, ben moi, tu sais, si j'avais à voter, ou alors, machin est formidable, pour m'énerver.
D'après le Cevipof, étude de 2012, 11% des adultes votent contre l'opinion politique de leurs parents. Donc c'est très minoritaire. Hein.
Oui, statistiquement, on a plutôt tendance à voter comme ses parents. Après, il peut effectivement y avoir des cas où c'est complètement l'inverse. Et des cas aussi de dissonance cognitive, quand on a, par exemple, un parent qui vote à gauche et la majorité des enfants de l'école dont les parents votent à droite, ou qu'on rencontre ensuite un copain, son meilleur ami, qui est absolument convaincu que... Donc voilà, il peut y avoir des cas comme ça aussi, où c'est les rencontres ultérieures qui vont amener à se positionner contre les parents.
Allez, écoutons encore des mots d'enfants et d'adolescents recueillis par Juliette Proutot.
Est-ce que vous aimeriez bien faire de la politique ?
Non.
Oh là, un gros non. Alors pourquoi ? Toi, tu disais que tu t'étais présentée aussi. Du coup, je me disais...
Lui aussi. C'était tous les sixièmes. Moi, j'ai pas été élue. Mais je pense qu'en même temps, j'en avais pas tellement envie. Il y a quelqu'un qui en a eu vraiment envie, qui est passé dans toutes les classes et qui a dit vraiment que c'était important pour lui d'être délégué. Il est passé dans toutes les classes de 6e et bah, résultat, il a été élu, quoi.
Donc tu penses que c'est comme ça qu'on finit par être élu ?
En se faisant connaître.
Moi, je m'étais présentée pour le conseil municipal des enfants, mais bah, comme c'était ma première année, bah, personne ne me connaissait trop.
Donc t'as pas été élu tout
non,
de suite ?
Non, c'était quelqu'un d'autre.
Et pourquoi t'avais eu envie de te présenter ?
Bah, parce que je voulais voir ce que c'était, un peu.
Bah parce qu'en fait moi j'aime pas décider les trucs des autres.
Ouais. Et moi je trouve qu'il y a trop de responsabilités. Bah moi je trouve aussi que quand on est maire d'une commune, parfois bah, on n'a pas le temps aussi de s'occuper d'une famille et d'avoir des enfants. Donc autant vivre pour sa vie, autant profiter parce qu'on n'a qu'une seule vie, alors voilà.
Je me suis pas présentée, en fait je suis contente quand même de ne pas m'être fait élue en tant qu'éco-déléguée, parce qu'en fait j'ai pas le courage vraiment d'aller voir des adultes et leur dire j'aimerais faire ça. J'aurais toujours peur qu'ils me refusent et moi j'aurais eu trop honte. Et puis j'ai trop peur de parler devant les autres et tout, donc en fait...
Moi ça va.
Voilà qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Nicolas Rousseau, sur l'utilité des élections de délégués de classe et d'éco-délégués à l'école pour former des consciences politiques.
Oui, et on a l'écho de ce qu'est la conscience politique des enfants. Ils ont quand même le sens des responsabilités. du temps que ça prend, du choix de pouvoir faire pour les autres, de pouvoir aussi être un personnage ou un élève public. Hein, le fait d'aller dans toutes les classes de 6e pour se présenter, c'est une démarche qui a 12 ans qui est pas forcément simple. Donc ils ont quand même une certaine notion de la responsabilité politique. Et puis ce qui est amusant aussi, c'est que les deux élus qui incarnent pour eux en fait la politique, c'est à la fois le président de la République, qui est le plus éloigné finalement, et le maire de leur commune. Mmh. Là aussi, un des élèves en parle, le maire, il a pas de vie en fait à côté. Donc je pense que tout ça leur permet aussi de construire un choix politique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce choix, il n'est pas fait une fois pour toutes. En fait, on est appelé régulièrement aux urnes pour voter. Et chaque fois, le choix s'exprime. Il peut construire, changer, être modifié en fonction de tel ou tel candidat ou toi ou telle candidate.
L'enjeu de votre livre, Nicolas Rousseau, c'est bien l'éducation citoyenne. Vous expliquez concrètement ce qu'est un maire, ce qu'est un président, une maire, une présidente, les institutions. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous à expliquer dans ce bouquin à l'usage des 10-13 ans?
C'est l'expliquer aux 10-13 ans, en fait. On est parti d'une base documentaire, hein, qui était celle des textes législatifs, des textes réglementaires. Et en fait, traduire la vie publique, la vie constitutionnelle et la République française à des enfants, il faut choisir des mots. Et on a fait plusieurs entrées aussi pour comprendre que le droit de vote, c'est pas quelque chose d'acquis depuis très longtemps, que le type de suffrage a beaucoup changé depuis la Révolution française. On est allé voir ensuite ce qui se passait véritablement dans un bureau de vote. On a été voir aussi ailleurs dans le monde comment ça se passait. Est-ce qu'il y avait d'autres types de régimes politiques? On a la chance en France d'être quand même dans un régime démocratique qui garantit le pluralisme politique, la liberté de l'expression, la liberté des médias. Et c'est pas pareil partout. Et le droit de vote, s'il est aujourd'hui un acquis en France, il est peut-être pas un acquis indéfini.
Et je me faisais cette réflexion aussi que par rapport au rôle que l'école peut jouer aussi, il y a des outils formidables. Enfin, par exemple, l'Assemblée nationale se visite et pas seulement pendant les journées du patrimoine, on peut amener ses classes là-bas. En fait, c'est pas mort, la politique, c'est pas quelque chose de totalement inintéressant. Il y a tout un théâtre, il y a tout un décorum et il se fait des choses, il se vote des choses. Et je pense que l'Assemblée nationale est vraiment une bonne entrée. Emmenez vos enfants à l'Assemblée nationale ou demandez à vos enseignants de les emmener. Vraiment, vous ne serez pas déçus, déjà c'est hyper beau et les députés adorent ça, transmettre leur savoir et transmettre ce qu'est leur métier. Donc vraiment n'hésitez pas à pousser les portes de l'Assemblée nationale.
Une touche de tourisme démocratique, voilà. En guise de conclusion. Merci beaucoup Laurence Poron. Il est temps de passer au conseil de lecture de Denis Chessou qui surveille pour nous l'actualité du livre Jeunesse. Au programme cette semaine, une grand-mère et sa mémoire et la Saint-Valentin, il paraît que ça approche. Bonjour Denis Chessou.
Dorothée Barbaz sur France Inter. Là tu l'es, mon petit loup.
Oui, bonjour Dorothée, bonjour à tous. C'est parti pour l'actualité du livre de jeunesse avec Grand-mère de Éléonore Douspy aux éditions Albin Michel Jeunesse à partir de 5 ans. La mémoire de grand-mère commençait à montrer quelques signes de faiblesse.
Elle ne savait plus très bien.
Et avec elle, c'était son passé, son histoire qui s'évaporait peu à peu.
Personne ne savait à sa place. Tout le monde cherchait, mais la tâche était immense.
Alors cette histoire, elle ne l'avait encore jamais racontée.
Les enfants surtout voulaient savoir, mais leurs questions restaient sans réponse.
Alors les souvenirs devenaient de moins en moins palpables.
Des fragments dispersés si loin que personne ne pouvait les rattraper. Sa mémoire n'était plus que paysage morcelé.
Mais des bribes remontaient doucement à la surface.
Nuages, brumes, fumées, café, manioc, lumière, eau, émeraude. Le lac!
Mais de quel lac voulait-elle parler?
Vous savez que j'habitais près d'un lac immense, aussi vaste qu'une mer. Je restais longtemps sur ses rives pendant que votre grand-père était à la pêche.
La mémoire lui revenait enfin.
J'aimerais regarder la brume se former à sa surface, voilant peu à peu l'horizon. Quand l'eau et le ciel se confondaient, les bateaux semblaient flotter au-dessus des nuages.
Elle se souvint alors de ses désirs de voyage en mer.
Mais votre grand-père, lui, ne voulait pas. Chaque jour, je lui demandais, chaque jour, il refusait.
Elle se souvint aussi de son impétuosité.
Un matin, je me suis réveillé avant lui, discrètement, sans faire de bruit, et j'ai rejoint les rives du lac. Enfin, sur mon bateau, comme suspendu dans les airs, je me suis laissé emporter, légère.
Le lendemain, grand-mère avait une nouvelle fois laissé partir ce souvenir.
Mais cette fois-ci, les enfants avaient eu le temps de le recueillir pour en prendre soin et le chérir.
Alors l'art du pop-up, hein, c'est de parvenir à faire naître une émotion par le surgissement du volume, hein, sur la page, généralement avec une portée assez spectaculaire. Et dans le cas de grand-mère, ben, le relief n'est pas uniquement facteur d'étonnement, il reflète le morcellement des pensées qui s'égarent, qui flottent et qui parfois renaissent dans l'esprit. Alors en cela, donc, ce livre regorge d'émotions, autant par son sujet poignant, qui est celui de la mémoire et de son évanouissement, que par son abstraction. Grand-mère, c'est donc un livre qui sait cueillir le cœur et rappeler la richesse fondamentale de la transmission de la mémoire et de l'expérience. Grand-mère est signé Éléonore Douspie aux éditions Albin Michel Jeunesse, c'est à partir de 5 ans. Les Amoureux de Pef chez Gallimard Jeunesse, c'est pour les 4-6 ans. Alors, une gentille histoire pour la Saint-Valentin, allez, c'est parti.
Un jour, une belle femme se promenait de vallons en raidillon. Un beau jeune homme l'aperçut, mais lui fit trop de compliments.
Bref, il se prend un râteau et, désespéré par son indifférence, il décide de jeter son cœur et jure de ne plus jamais aimer. Bon, ben, v'là-t'y pas que c'est le diable en trottinette qui ramasse le cœur.
Et fou de balles et de foot, il shoot et l'envoie dans les nuées.
Et naissent ainsi 1000 oiseaux, offrant aux nuages plus de 1000 fils rouges transportés par le vent.
Qui tombent, pur hasard, sur des nouveau-nés, ni blonds, ni bruns, mais tête nue comme un galet.
Et diablement jolis, ces enfants n'ont pas le cœur sur la main, mais sur la tête, comme du feu tout roux.
Ce sont des amoureux, grande tribu qu'il faut aimer comme soleil le vent de toute enfance.
Et la dame du début du livre, me direz-vous. Alors hop, retournement de situation, elle demande au garçon éconduit et sans cœur à présent de l'épouser.
Ne vous en faites pas, j'ai deux places dans mon cœur. Notre demeure désormais.
Donc tout va bien. Alors on n'est pas dans un chef-d'œuvre de Pef, mais dans une gentille histoire farfelue et poétique qui part d'une invention de mots, amoureux, comme les aime le papa du prince de mots tordus. Le tout dans une ambiance qui va du Moyen-Âge jusqu'à notre époque. Mise en couleur par Geneviève Ferrier, voici donc une fable qui célèbre les héros et tous les amoureux de Pef chez Gallimard Jeunesse. C'est pour les 4, 6, 7 ans. Merci à Lucie Cosmala, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lecture.
Et rendez-vous sur le site de France Inter, rubrique « L'as-tu lu, mon petit loup ?» pour les références des livres cités. Nous avons causé politique avec Laurence Perron, Nicolas Rousseau et Alice Simon. Et comme la fin de Barbatruc approche, j'ai une toute dernière question à poser à mes trois invités. Question rituelle dans cette émission, j'aimerais connaître l'odeur de votre enfance. Alice Simon.
Alors pour moi, c'est comme certains lieux peuvent avoir des odeurs. Pour moi, c'est des odeurs de lieux, donc notamment l'odeur de la maison de mes parents et l'odeur de la maison de mes grands-parents également.
Et ça sentait quoi ?
Et ben c'est un peu difficile de décrire l'odeur d'un lieu, mais à chaque fois que j'ai vu que ce sont toujours les mêmes maisons où sont toujours mes parents et ma grand-mère, à chaque fois que j'y vais, juste quand j'ouvre la porte, j'ai cette odeur qui est voilà hyper familière en fait et qui n'a pas changé, je trouve.
Et qui est unique au monde, évidemment.
Et qui est unique au monde.
Nicolas Rousseau, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Moi, c'est celle de la gâteau aux pommes. Et en tout bon breton, c'est des pommes qui sont rissolées juste avant au beurre de micel. Et la cuisson faisait régner dans la cuisine une odeur qui me permettait d'entrevoir un dessert plutôt gourmand.
Laurence Perron, quelle est l'odeur de votre enfance ?
Ben, je pense que c'est l'odeur du sac à main en cuir de ma mère avec ses chewing-gums à la menthe, à la chlorophylle et une petite odeur de cigarette. Et en fait, quand je sentais cette odeur, c'est qu'on passait un moment toutes les deux. Elle prenait son sac à main. Comme j'étais petite, je pense qu'il devait être à la hauteur de mon nez. Et voilà, elle a arrêté de fumer aujourd'hui, donc cette odeur
donc,
n'existe
tant
plus.
Mieux. Voilà. Elles sont joliment variées, nos odeurs de la semaine. L'odeur d'une maison, l'odeur d'un gâteau aux pommes et puis un sac à main en cuir avec des chewing-gums et des cigarettes. Je mets toutes ces odeurs sous cloche et ça fabrique la recette du parfum de l'enfance. Le livre de Nicolas Rousseau pour les enfants à partir de 10 ans pour tout comprendre au fondement de la démocratie et aux enjeux électoraux. Ça s'appelle « À voter, on élit qui et pourquoi ?» collection Castor Doc chez Flammarion Jeunesse. Une réédition est prévue pour le mois prochain. Je remercie nos camarades de France Bleu Armorique pour la liaison en duplex avec vous, Nicolas Rousseau. Président, c'est comment ? Podcast original France Inter signé Laurence Perron et Yael Gauze pour les enfants à partir de 9 ans. À la louche, hein, 9 ans, un peu plus, oui. Un peu moins. Voilà, à retrouver sur l'appli France Inter et sur toutes les plateformes de podcast. Et je signale que la thèse d'Alice Simon sur les enfants et la politique est disponible sur Internet. Là, c'est plutôt pour les grandes personnes, mais bon, on ne doit pas donner d'âge minimum. Et on trouvera un lien à la page de Barbatruc sur le site de France Inter. Grand merci à vous trois. Merci, à bientôt.
Merci.
Merci.